I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Laurent Binder, Cédric Châtelus et Stéphane Touvenin. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, en direct, en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Florence Colombani, Philippe Azoury et Antoine Guillot. Pour parler ensemble de Cold War, de Pavel Pavlikovski, Halloween de David Gordon Green et L'envers d'une histoire de Mila Turacik. Il y aura un coup de cœur ce soir délivré par Florence Colombani à propos de la rétrospective de Jean-Paul, des films de Jean-Paul Rapneau à la Cinémathèque française. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Les Contes Cruels de Paola Rego. C'est juste à voir jusqu'au 19 janvier au musée de l'Orangerie à Paris. Et cette émission débute avec Cold War de Pavel Pavlikovski, réalisateur polonais installé à Londres depuis une quarantaine d'années, qui s'était fait remarquer en 2014 avec Ida, film qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, un BAFTA, un Goya et puis quelques autres prix. Alors là, avec Cold War, même noir et blanc, même format carré, cette fois l'action se déroule pendant la guerre froide entre la Pologne, Berlin, la Yougoslavie et Paris, tout ça dans les années 50. Le film est une histoire d'amour entre un musicien et une chanteuse, amour, on se doute, forcément contrarié en ces temps difficiles.
Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję.
Ambiance Bel Air hein, pour Cold War, avec cette musique langoureuse. Évidemment, les héros de cette histoire sont impliqués dans ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'ai pas encore pu voir ce film de Pavel Pavlikovski, donc est-ce qu'il faut que j'y aille cette fin de semaine? C'est Florence Colombani qui commence à me le dire.
Alors moi, je vais vous dire oui. Allez-y, Arnaud. Je trouve que c'est un très beau film. C'est un film, quand on le résume... On a l'impression que ça va être une fresque absolument interminable parce que c'est la grande histoire qui rencontre l'histoire intime d'un couple. C'est un morceau de la guerre froide. Le film se passe sur une assez longue durée, dans plusieurs pays. Comme vous l'avez dit, il y a une ampleur du propos. Et en fait, c'est un film très court, très resserré, avec une remarquable gestion du temps. Et surtout, une très grande réussite dans la peinture de ces personnages qui sont inspirés à Pavel Pavlikovski par ses propres parents, au point qu'il leur a donné leur vrai prénom, Victor et Zula. Et ce sont des personnages très attachants parce que très singuliers. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'il s'est inspiré de ses parents pour les écrire ? sans leur donner d'enfants dans l'histoire, ce qui est un détail assez intéressant parce qu'ils sont nimbés d'une sorte de glamour, sans doute par le regard de l'enfant qu'il a été, mais on leur retire ce qui a sans doute été un problème dans leur vie, puisque ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à s'aimer et à rester ensemble, qui était leur véritable enfant. Donc ça, c'est un côté freudien assez étonnant. Mais les personnages donc, sont une épaisseur romanesque incroyable, avec peu de scènes, avec peu de choses. Et je trouve que cette esthétique du noir et blanc et du format carré qui était déjà là dans Ida, elle a la force de à la fois nous faire voyager dans le temps. Grâce au noir et blanc, on n'a pas besoin d'être dans la chromo de la reconstitution, il y a une sorte d'abstraction. Et le format carré aussi fait qu'on est dans un rapport au personnage très direct. Et il y a vraiment quelque chose de bouleversant finalement avec une histoire assez ténue dans le sens entre les deux héros, c'est-à-dire c'est ni avec toi ni sans toi, et en même temps le politique qui vient s'immiscer dans la vie des personnages. Et donc finalement un film qui se retrouve à nous livrer beaucoup de strates.
Alors j'ai oublié de le préciser, Pawlikowski a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, donc attaquons là-dessus. Philippe Azoré, est-ce que c'est un prix, selon vous, mérité ?
Oh oui, je pense qu'il est même passé très très loin de la Palme d'Or. Je n'ai pas vu le Kore-eda, donc je n'ai pas encore vu le Kore-eda qui a eu la Palme d'Or, donc j'ai du mal à comparer ici à ce micro. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin, lorsqu'on découvre le film, d'un sorte de film parfait. Je ne suis pas loin, parce que je pense qu'il se rate un peu sur le dernier quart d'heure, mais c'est pas si grave. Le film a une effectivement, Florence le disait bien, une sorte d'empressement très très beau, dans le montage notamment, chose vraiment incroyable, qui désamorce un peu tout le très très beau noir et blanc, le cadre en 33 sublime, la très très grande beauté des acteurs, que ce soit Johanna Kulig ou Thomas Scott, de canon comme ça, voilà, en puissance, s'aimant chaudement dans une guerre froide, tout ça qui pourrait finalement, avec un noir et blanc, mais d'une beauté mais terrible, tout ça pourrait finalement être dans une sorte d'air de glaciation et complètement brusqué, remué par l'empressement, par le galop du montage. Je trouve que c'est une des plus belles choses que Pavel Pawlikowski donne dans ce film, parce qu'on voit qu'il a conscience de ce qui menaçait Ida, qui est un très très grand film, mais qui le menaçait un peu, qui était quand même cette espèce de côté réfrigéré un peu. On a lu un peu à droite à gauche, je pense c'est en Libération, un noir et blanc glamour, oui, tout ça est glamour, mais le montage, la vitesse avec laquelle Pawlikowski raconte, mène le récit de cet amour sur 2 décades, 20 années. Au contraire, ça donne quelque chose de beaucoup plus urgent qu'un simple glamour. C'est pas du tout le glacis. Au contraire, ça se réchauffe très fort.
Deux décennies, c'est le moment de dictionnaire de l'Académie française, des décades, des temps, des jours en français, contrairement à l'anglais. Antoine Guillot, ça se passe pas sur 20 jours, vous me confirmez, mais sur 20 ans.
Quand on aime, on compte pas.
D'accord. Antoine Guillot sur Cold War.
Effectivement, le film est une très bonne surprise, parce que je suis pas d'accord sur le côté grand film de Ida. C'est un film qui m'avait étouffé, justement, à cause de son système formel.
Oui, c'est pas ce qui est péjoratif.
Non, mais voilà. Le
film monumental, j'aurais dû dire.
C'est un peu le problème de Pawlikowski, c'est qu'il veut faire le grand film, il veut faire le film parfait, et pour lui, ça se résume beaucoup à une image, dans sa conception du parfait, qui est quand même une image léchée, qui est pas très loin, même quand on montre une aspirante nonne dans le Pologne stalinien, d'une image publicitaire assez digérée en fait, et pas très intéressante. Donc c'est un peu la menace qui pèse aussi sur ce film. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le film le déborde sans arrêt. Alors, notamment grâce aux comédiens, grâce à cette Johanna Kulig qui est une force de vie extraordinaire et qui n'est presque pas récupérable par le système du cinéaste. Elle est là toujours à déborder, non seulement par sa présence, mais par le personnage même qu'elle crée, qu'un personnage très complexe, parce que ce que le film raconte, c'est aussi deux manières de s'en sortir dans un régime totalitaire, soit celui de l'intellectuel qui va trouver de manière assez opportuniste son chemin dedans pour le quitter, et puis quelqu'un qui est d'une extraction, on dira, beaucoup moins noble, et c'est comme ça aussi qu'elle est montrée, mais pas de manière péjorative, et qui, elle, ne voit pas où est le problème de devoir espionner son amant pour le compte du système. Finalement, tout ça n'est pas très grave, et elle a une force de vie qu'elle fait paraître. Est-ce que le film arrive à faire, et c'est assez contradictoire d'ailleurs avec sa volonté de contrôle, de faire beau, etc. C'est comment des corps sont affectés par un régime coercitif, par un régime totalitaire, mais aussi comment l'exil, presque plus encore, peut menacer la virilité d'un homme, par exemple, qui est rabaissé. À un moment, elle le voit, puisqu'il se rencontre dans plusieurs moments de cette histoire, elle lui dit « mais au moins en Pologne, tu étais un homme ». Et c'est vrai qu'il y a un côté terrible, parce que ce qu'elle lui reproche, c'est finalement de galvauder son talent à faire du jazz. On entend là le moment parisien qui est très beau, mais c'est vrai qu'elle lui met sans arrêt le nez un peu dans ses contradictions, elle-même n'en étant pas exempte, puisqu'elle choisit de rester et de faire toutes les compromissions qu'il faut sur place pour survivre. Puisqu'il y a assez beau dans ce film, c'est justement cette musique, c'est-à-dire que le film est très souvent une pure comédie musicale. Les moments musicaux sont extraordinaires, et y compris dans la manière qu'a Pawlikowski de filmer cette musique folklorique qui a été instrumentalisée par le régime, plus de manière nationaliste même d'ailleurs que vraiment communiste. Qui est-ce qu'il a vu, lui, toute son enfance à la télévision, et dans sa manière de le filmer, il met aussi l'émotion qu'il avait parce que ça lui rappelle sa propre enfance. Et là où on est vraiment dans une comédie musicale, c'est que quand ses corps sont empêchés en permanence et qu'on ne peut plus parler parce qu'on est observé, etc., c'est par la musique, c'est par la danse que tout ça va s'exprimer. Et même la mise en scène change à ce moment-là. C'est-à-dire que la mise en scène est très proche des comédiens la plupart du temps. Et quand il y a ces moments musicaux, on revient presque au canon de la comédie musicale MGM des années 30. C'est-à-dire que la caméra va reculer, va être en plan fixe et va simplement regarder des gens chanter et danser. Et c'est très, très beau.
Florence Colombani.
Oui, en effet, j'ai été très frappée par la mise en scène de ce qui sont des spectacles folkloriques, hein, parce que la façon dont Victor réussit à pratiquer son métier, qui est d'être musicien, dans la Pologne stalinienne, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le rencontre, se faire l'archiviste de la musique populaire des campagnes et ensuite transformer ces chansons qu'il a trouvées brutes en spectacle extrêmement esthétique, avec des costumes traditionnels. Et il y a quelque chose de très beau dans le rapport que Pawlikowski tisse à ce moment-là avec ce régime et cette époque et cette propagande, parce que c'est malgré tout des spectacles de propagande, et ça fait souffrir le personnage de devoir faire ça. Et en même temps, il en montre la beauté, il ne les traite jamais avec condescendance. Et c'est aussi la grande subtilité du passage à Paris, où les deux personnages se retrouvent à un moment, que de montrer la douleur de l'exil, qui est un exil forcément subi. C'est-à-dire qu'à un moment, un des personnages fait le choix de passer le rideau de fer, mais on se rend bien compte que ce choix n'est pas un choix libre, puisque c'est un choix contraint par la dictature de toute façon. Et il y a une tristesse de l'exil, il y a une mélancolie à ce moment-là qui est vraiment poignante. Et je pense que la beauté du film, c'est aussi d'avoir su trouver sa place dans le discours par rapport au passé, ce qui n'est pas forcément évident dans la Pologne contemporaine, dont on sait bien qu'elle pose un regard, enfin en tout cas que le gouvernement cherche à ce qu'elle pose un regard extrêmement balisé sur cette période.
Philippe Azoré à nouveau.
Non, c'est vrai que enfin, Florence le dit bien, c'est très très beau parce que la façon dont Pawlikowski arrive à gérer à la fois la grande histoire et le rapport intime, c'est assez extraordinaire, parce que dès que ces deux corps-là se rapprochent, même si le film est très très chaste, mais il n'en est pas moins sensuel, dès que ces deux corps se rapprochent,
il en est d'autant plus sensuel, je pense.
Dès que ces deux corps-là se rapprochent, immédiatement ils deviennent sourds littéralement à ce qui leur arrive. C'est-à-dire que alors que la grande histoire ne cesse d'interférer dans leur relation, dès qu'ils sont filmés tous les deux dans un même plan en train de vouloir s'aimer ou de chercher à s'aimer, ça devient une histoire d'amour brut. C'est presque un plan à la Garrel. Enfin, il y a presque un mur nu et deux corps. Et c'est vraiment très 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 beau là-dessus. Enfin, je veux dire, il réussit quelque chose qui est d'arriver à alterner grande histoire et histoire intime sans cesse. C'est assez beau. Je veux dire, c'est assez bluffant.
Alors, il y mêle aussi, hein, je l'ai dit dans le résumé, les questions artistiques. On a un musicien, une chanteuse. Qu'est-ce qui est fait de cette question de la place et du rôle de l'art? Alors, comme propagande, ça on a un peu entendu déjà, mais est-ce qu'il interroge aussi la pratique artistique?
Il interroge réellement en tant que compromission, mais qui peut se faire à de multiples niveaux. C'est-à-dire que la compromission politique, elle va finir comme une chanteuse, et la même chanson est reprise d'ailleurs de plusieurs façons différentes, hein, en air traditionnel au début, la version jazz qu'on vient d'entendre, et puis plus tard elle va devenir une sorte de mambo pop de la fin de la Pologne communiste, où elle devient une vieille chanteuse un peu ringarde qui se
produit qui se produit comme ça. Mais
si je veux le gâcher, Antoine.
Bah oui, mais vous me demandez.
Excusez-moi. Vous posez la place
vous de posez des questions sur la place de l'art. Bah, il faut bien que je m'appuie sur quelques exemples. C'est-à-dire que c'est à la fois comment on peut, comment il y a quelque chose à la fois sublime dans l'art et de tout de suite récupérable à cause de compromissions, mais qui ne sont pas montrées comme regardez, c'est scandaleux, ils se compromettent, mais simplement comme des stratégies de survie qui sont parfois illusoires, mais qui vont vers là. Et c'est là que le film parle évidemment très clairement de la Pologne d'aujourd'hui. Ida avait déjà posé des problèmes parce qu'il montrait que l'antisémitisme de la Pologne ne s'était pas arrêté en 1945. Et là, c'est très clairement, c'est à l'inverse. Ce qu'on peut lui reprocher en Pologne, c'est de ne pas montrer la Pologne communiste comme assez monstrueuse. C'est que simplement, c'est un cadre dans lequel les gens essayent de vivre. Et ce n'est pas tellement mieux à Paris, ce n'est pas tellement mieux un peu partout où ils vont essayer de vivre. Ce qu'il montre simplement, c'est comment l'utilisation idéologique des personnes, de l'art, etc., peut miner des personnes.
C'est la chronique de l'exil, en général.
Et par ailleurs, effectivement, ça parle aussi, bien au-delà de la Pologne, de qu'est-ce que c'est qu'être un exilé aujourd'hui et de la douleur de personnes qui, de toute façon, ne trouvent leur place nulle part. C'est ça qui est frappant. Quel que soit l'endroit où ils sont, ils ne sont pas à sa place parce que ce sont des amoureux, parce que c'est aussi un film d'amour fou.
Florence Colombani.
Oui, il y a aussi quelque chose de très beau dans le discours sur le jazz. Alors, ce qu'on a entendu là, quand elle chante cette fameuse chanson folklorique sous sa forme jazzy, elle, le personnage, le vit comme un échec terrible. Elle trouve ça affreux.
Elle dit manque de relief, je crois. Voilà. Oui, ça manque de relief, mais c'est vrai, en fait.
C'est un moment très douloureux pour elle. Et en même temps, ce que montre Pawlikowski, quelque chose d'historiquement tout à fait vrai, et je me souviens d'avoir entendu des archives de Roman Polanski qui racontaient ça, c'est-à-dire que le jazz, dans l'après-guerre en Pologne, c'était une musique interdite par le pouvoir. Et donc, c'était la musique qu'adoraient les jeunes, qu'on écoutait en secret. Bon, on connaît les bandes-sons de Christophe Komeda pour Polanski, qui sont très jazzy, etc. Il y a quelque chose d'assez fort dans le fait que le jazz, la musique des Noirs américains, naît quand même d'une forme d'oppression, se retrouve là, à cette période, symbole d'un goût de la liberté. Et quand les deux personnages se rencontrent, Victor fait passer une audition à Zula et il joue au piano un air de Porgy and Bess sans le nommer, mais on comprend que c'est donc quelqu'un qui a une soif d'autre chose, qui a peut-être voyagé à l'étranger ou en tout cas eu accès. Et donc il y a une économie là dans la narration, cette façon d'utiliser la musique qui est vraiment très intéressante.
Je me demandais si quelqu'un avait reconnu le film le film sur lequel il joue. C'est quoi, Rocco et ses frères peut-être, de Visconti?
Non, c'est pas Rocco et ses frères.
C'est pas Rocco et ses frères. Je me suis posé la question pendant la...
Je pense que c'est un film fictionnel, je pense pas que ce soit un vrai...
À ce point de reconstitution?
Ouais.
Et pour aller dans le sens de Florence Colombani, effectivement, il y a une école du jazz vocal en Pologne à cette époque-là, notamment avec un groupe qui s'appelle les Novi Singers, qui était absolument extraordinaire. Enfin voilà, si ça peut donner envie aux auditeurs de France Culture de pousser jusque-là, n'hésitez pas.
Pourquoi pas? En tout cas, pousser déjà jusque vers une salle de cinéma, vous m'avez donné envie.
C'est pas mal.
J'irai voir Cold War, donc en cette fin de semaine. À suivre dans la dispute, nous allons parler d'Halloween, de l'envers d'une histoire et de la rétrospective Jean-Paul Rappeneau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
La suite de cette dispute cinéma, toujours en public au bel air, pour parler à présent d'Halloween. Non pas une nouvelle sortie du film que John Carpenter réalisa il y a tout juste 40 ans, mais la suite de l'histoire, 40 ans après. Oubliant les 10 films de la franchise Halloween qui ont suivi l'original, peut-être mieux les oublier en effet, c'est David Gordon Green qui réalise, Jamie Lee Curtis qui reprend le rôle de Laurie Strode. Bonne ou mauvaise idée? Réponse avec nos critiques.
Il y a plein de maisons ici, mais elles sont toutes flippantes.
I'm gonna pick that one over on across the street.
Forty years ago, on Halloween night.
Il y a 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné 3 personnes.
After that horrific night, he was sent back to the institution in captivity.
Il est retourné en hôpital psychiatrique et il n'en est plus sorti.
I have prayed every night.
Depuis cette nuit-là, j'ai prié faire une chose pareille.
So I can kill him. The bus crashed.
Michael Myers escaped.
He'll return to Haddonfield, his home.
I need to protect my family.
T'as pas de système de sécurité, Karen.
Faut que tu te fasses aider, maman.
Le mal existe.
There's a reason we're supposed to be afraid of this night.
I've been preparing for this for a long time. It is not safe to be on the street tonight.
Go home! Get out of here! Get inside! Michael!
Bris de verre au bel air. Non, c'est pas ici qu'on casse la vaisselle, mais on casse beaucoup de vitres. Dans Halloween, est-ce que ça nous a fait vraiment peur? On pourrait commencer par là, finalement. Parce que Halloween, ça doit nous faire peur. Philippe Azoury, vous avez sursauté dans votre fauteuil, vous avez agrippé votre voisin ou votre voisine.
J'ai à la fois sursauté et rigolé. J'ai sursauté parce que, j'ai fait l'erreur de voir le film hier à 9h30 du matin, la séance à la matinale, comme ça.
Ça réveille ou pas?
Gaumont. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être presque indigeste. Enfin, il y a quand même, au début, je ricanais un peu parce que je suis le genre cynique. Enfin, vous me connaissez, rien ne me fait peur. Sauf que, enfin, il y a quand même, au bout d'un moment, ça devient assez flippant. Mais surtout, bon, après, le film est assez long, sans doute même trop. Bon, j'ai voulu descendre dans les escaliers du Gaumont Montparnasse pour aller vers les toilettes qui sont quand même assez à la limite du sordide. Et là, c'était la porte était fermée et le type a dit c'est occupé. C'est exactement une scène du film. Et j'ai vu, je me suis vu en train de vouloir le massacrer ou lui surgir ou quelqu'un surgir. Enfin,
avec un grand couteau de cuisine.
Donc le film opère, oui.
Sur vous, en tout cas, hier matin ou avant-hier matin.
Il a opéré partiellement. Il opère, oui, en tant que terreur, il opère un peu. Quant à la question, Arnaud, que vous posiez, est-ce que c'est une bonne idée, précisément, le retour de Jamie Lee Curtis?
Faire la suite vraiment des personnages 40 ans après
oublier,
le temps.
Oublier les 9 épisodes qui ont suivi le John Carpenter il y a 40 ans et faire comme si les choses vraiment, vraiment, c'est comme si on était en 1979 et qu'on avait une suite. Non, après, non, pas 79, parce qu'il
mais prend, non, parce qu'il y a vraiment les 40 ans de vie des personnages.
Les 40 ans, avec l'âge physique, ce qui pourrait être très très beau, crépusculaire et tout ça. J'ai quand même l'impression qu'à terme, c'est presque le boulet du film. Pas Jamie Lee Curtis en elle-même, c'est une actrice extraordinaire, on l'adore et tout ça, mais tous ces signaux qui sont envoyés de crédibilité, la musique qui est composée par John Carpenter lui-même, avec son fils et son filleul. Bon, on l'adore, mais il fait quand même toujours les trois mêmes accords depuis 40 ans. Il le fait pour comme un clin d'œil. Le film n'arrête pas. Il y a plein. Moi, je suis pas assez geek pour ça, mais il y a des caméos infinis pendant tout le film. L'image elle-même, enfin en tout cas dans le souvenir que j'ai du film de Carpenter, tout le chromo du film, là, je sais qu'il est tourné en Panavision, mais il y a réellement, enfin dans le style même de la mise en scène de David Gordon Green, une citation permanente de continuité. Enfin vraiment, comme si en 40 ans non seulement il n'y avait pas eu 11 ou 10 films ou 9 films de plus, mais comme s'il ne s'était rien passé, enfin vraiment comme si le film donnait la main. C'est une super belle idée sur le papier. Ça devient quand même au bout d'un moment assez ennuyeux. Surtout, j'ai quand même l'impression, surtout, c'est révélateur de quelque chose. Je veux dire, c'est que le film devient intéressant, passionnant et flippant, parce qu'il est flippant par moment, quand il s'intéresse à des gens très très jeunes. Et c'est presque, finalement, c'est une loi du film d'horreur ou du slasher. C'est-à-dire que ça a besoin de chair jeune, ça a besoin d'une sorte d'innocence. Et le film est contradictoire là-dessus. Parce qu'à la fois, il n'arrête pas de donner des pièces pour dire oui aux grands cinéphiles. 40 ans nous séparent, mais pas tant que ça. Vous allez voir, on est super. Et en même temps, le film se débat dans un truc. Il arrive en queue de comète de choses qui sont un peu quand même usées en termes d'effet de suspense. Il ne sait pas comment faire et il voudrait qu'on reparte à zéro. C'est-à-dire qu'il voudrait que rien ne se soit passé depuis 40 ans et il voudrait qu'à chaque sursaut, on puisse faire « Ah !» Il finit par y arriver parce que le film est long et que les gens sont fatigués.
À l'épuisement, vous voyez.
Et qu'il est plutôt bien filmé. Mais je ne suis pas certain que les clins d'œil sans arrêt via les acteurs étaient nécessaires.
Antoine Guillot, à présent sur Halloween, je reprends la question, bonne ou mauvaise idée, peur ou pas peur?
Alors ça dépend de quel point de vue on se place, du point de vue des producteurs c'est une bonne idée.
Non, de votre point de vue, c'est Antoine Guillot qui s'exprime, on a envie d'entendre Antoine Guillot.
Puisqu'il marche très bien, il a très bien marché, puisqu'on parle des conditions dans lesquelles on l'a vu, moi je suis allé le voir hier après-midi en face de l'autre côté de la scène, dans une séance qui était pleine d'ados. Qui était ravi de voir ça, mais qui de temps en temps disait oh mais il est trop bête ce personnage, pourquoi il va là, etc.
Pourquoi parce que tu descends dans la cave qui est pas éclairée alors qu'il y a un tueur qui rôde.
Donc, ils sont,
Il n'y a plus aucun film d'horreur.
Qui sont les grands classiques. Le seul problème, c'est que dans cette volonté de revenir à l'original, il oublie quand même. Enfin, il l'oublie pas tellement parce que le film est non seulement il est contradictoire, mais il est d'un cynisme absolu, beaucoup plus que vous, Philippe. C'est-à-dire qu'il veut, il veut bouffer à tous les râteliers possibles. Donc, il tient compte du fait que ce film, il a beau dater de 1978, c'est un classique que regardent les jeunes qui aiment le cinéma d'horreur, geek ou pas geek, quand ils veulent se faire une soirée Halloween. Donc, il est très connu. Donc, il va faire des citations qui sont non seulement des caméos, des choses comme ça, mais il va reprendre des plans,
des séquences,
séquences, sauf qu'il va les inverser. C'est-à-dire, hein, malin, au lieu de mettre Mike Myers, le tueur, à la place, on va mettre la victime qui, en 40 ans, a eu le temps de devenir une badass, vraiment une mauvaise fille, très costaud, etc., qui ressemble d'ailleurs au personnage que des films de Carpenter des années 80, c'est-à-dire vraiment costaud, surarmé, prêt à en découdre. Et sauf que, voilà, donc ils vont la mettre à la place de Mike Myers dans la rue, en train de regarder, alors ce n'est plus elle qui est dans la classe, mais c'est sa petite fille, ou alors elle va faire ce plan très connu qui est la fin d'Halloween, où Mike Myers, après avoir été blessé par le docteur Loomis, tombe et il n'y a personne, il tombe du toit, et quand on regarde, il n'y a personne en bas. Et il va faire exactement la même chose avec elle, sauf qu'à partir de là, il faut y réfléchir un peu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on inverse ? C'est-à-dire que la victime est devenue, tueur, etc. Alors ça, c'est une des pistes, mais des pistes comme ça, il y en a plein dans le film, qui sont toutes contradictoires les unes avec les autres. On a l'impression qu'il y a eu, je crois même pas que ça a été le cas, parce que je crois qu'ils l'ont écrit à deux seulement, mais qu'il y a une armée de scénaristes qui se sont penchés.
Ils l'ont écrit à deux ou trois, ils l'ont tourné trois.
Et qu'on a hérité de plein de pistes. Alors, une de ces pistes, c'est on a tous très envie que le tueur revienne. Mais on a l'impression que c'est juste les producteurs qui sont là, donc ils vont créer les conditions du retour, avec beaucoup de personnages qui ne sont là que pour assurer les conditions du retour. Donc, lui apporter son masque, l'énerver un peu pour dire reviens, regarde, on t'a apporté ton masque. Un psychiatre qui va reprendre encore en l'inversant celui du personnage joué par Donald Pleasant, etc. Bon, plein de pistes, alors qui donnent des pistes d'interprétation, et plein de gens se sont jetés dessus, mais qui finalement, en fait, c'est un grand gloubi-boulga de mélange d'un peu tout, qui ne fonctionne jamais vraiment, parce que, au bout du compte, qu'est-ce qui faisait la force du personnage, et je m'arrête là, chez Carpenter, c'est que c'était moins un tueur qu'un voyeur, c'est une présence qui était oppressante en permanence, et on ne voyait pas grand-chose des meurtres, alors que là, on a droit à peu près à tout, hein, dont le crâne est éclaboussé, façon pamplemousse. Mais c'est là que le retour à l'innocence est impossible, parce que depuis Carpenter, il y a eu 40 ans de films gore dans la surenchère.
C'est bon, toi, je peux donner la parole à Florence Colombani, oui. C'est pas possible.
Je pense que le problème de fond de ce film, c'est le genre même du slasher movie. Donc, le slasher étant le tueur sans raison, le tueur qui tue pour le plaisir. Alors Michael Myers étant le premier,
c'est pas pourquoi il tue, c'est même pire, voilà, que ça, c'est un tueur,
c'est juste un tueur. Point. C'est un corps, c'est qui détruit, c'est un masque, donc ça n'est même pas un visage qui nous communique quoi que ce soit. Et le problème, c'est que récupérant tout ça et le film qui a fondé quand même la mythologie et puis tout un genre, David Gordon Green essaye de nous donner une épaisseur psychologique pour remplir en fait ce qui est des espaces entre des scènes qui font peur ou des scènes de violence. Et c'est écrasant parce que donc il essaie de nous mettre la question du traumatisme qui se transmet de mère en fille, et comment on porte la mémoire de son traumatisme dans son corps et comment on le donne à sa fille. Toutes questions fortes, intéressantes, mais qui sont là vraiment traitées de façon extrêmement grossière, uniquement pour qu'on ait des choses qui se passent avant qu'on en vienne au final. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que la seule chose finalement intéressante de Halloween, c'était que l'héroïne en est Jamie Lee Curtis, qui est une femme qui a, je ne sais pas, quelque part après 50 ans, ce qui est quand même 60. Une chose totalement inhabituelle. Il y a même dans son physique même et sa présence physique quelque chose qui est assez audacieux dans le cinéma hollywoodien contemporain. On se rend compte qu'on ne voit pas une femme de cet âge en gros plan à l'écran, jamais. Et donc, c'est peut-être la seule audace du film, c'est celle-là.
Ouais, c'est pas mal déjà.
C'est déjà ça.
Vous avouerez. Moi, j'ai repensé beaucoup à Blue Steel, Catherine Bigelow, avec Jamie Lee Curtis, il y a quelques années déjà. Mais j'ai l'impression que c'était plus la suite de ce film-là, quasiment d'une certaine façon.
Enfin, à côté Dame à la bûche aussi.
Ou quelque chose entre les deux. Moi, ce que je préfère, ça reste la musique hein, dans cette version d'Halloween, parce que ça fonctionne comme un doudou, quoi. On est content d'entendre ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir aussi peur que vous. J'avoue que, voilà, au départ, j'avais envie d'avoir peur, et puis c'est quand même l'ennui qui gagne beaucoup, et j'en suis.
Le film est plombant, quoi.
Voilà, c'est quand même l'ennui, et j'en suis arrivé à me dire que je préférais cette mauvaise série qui est Stranger Things, qui au moins joue un peu du décalque et se nourrit de beaucoup, beaucoup de sources des années 70 et 80, pour en faire quelque chose de bon, parfois pas tout à fait digeste, mais avec une forme d'invention, alors qu'ici, j'ai vu beaucoup de sueur, de brainstorming, c'est-à-dire de remue-ménage en français. C'est comme ça qu'on appelle ça.
Oui, mais peut-être aussi parce que David Gordon Green n'a jamais fait jusqu'ici de films d'horreur. C'est pas du tout quelqu'un qui a touché à tout pour l'instant.
Oui.
On essayait de se souvenir, mais je crois en 10 ans, il fait un film.
C'est l'idole de Charlotte Garçon, qu'on salue si elle nous écoute, voilà. Puisqu'il a réalisé Pineapple Express,
des comédies préférées après la règle du jeu.
Ex aequo, je crois. Elle va nous envoyer des textos rageurs.
Il a aussi réalisé Joe, c'était avec qui
C'était on oublie, c'est même pas la peine d'en parler.
L'autre rive aussi.
L'autre mangeur.
Mais il arrivait plus à se fondre dans le côté un peu film indé pour Sundance ou les comédies, etc. Mais parce que c'est très étrange ce réalisateur qui ne semble n'avoir aucune colonne vertébrale en fait, mais travailler dans le mimétisme en permanence, sauf que là il n'y arrive pas.
Il ne sait pas quoi faire du personnage de
Mike Myers qui était juste une silhouette chez Carpenter. Et là le personnage devient pato. Il devient très étrangement un poids mort, un poids lourd dont le cinéaste ne sait pas quoi faire.
C'est cette référence qu'il est obligé de se trimballer tout le temps et qu'effectivement, je pense tout le film. Il est beaucoup plus libre quand il s'agit de filmer des adolescents. La fête des ados est pas mal. Tous les ados qui se disputent, l'ado bourré qui essaye de draguer la petite fille de Jamie Lee Curtis, c'est des moments beaucoup plus beaux au final. Enfin, on a plus envie de voir ça. Enfin, cette chair fraîche là. Que sa crédibilité gagnait à coup de référence, qui je pense le plombe.
Enfin, même dans ces séquences-là, c'est quand même pas grand-chose.
C'est pas énorme.
Ah mais bon, le problème, mais, c'est qu'il pense pas du tout le contexte Antoine politique. Dior. C'est-à-dire que le personnage du slasher et toute la pérennité de ce genre dans les années 70 intervient à un moment où il y a un retour de l'ordre moral et où il s'agit de punir les jeunes qui s'aventurent vers la sexualité. Là, on est quand même 40 ans après, il se passe tout autre chose et chaque fois qu'il veut dire, regardez ce personnage fume de l'herbe, alors évidemment il va mourir ou ils vont fricoter dans la chambre, ça marche plus du tout, c'est-à-dire que les interdits politiques et moraux de l'époque ne sont plus du tout les mêmes. Donc le Michael Myers devient une force qui avant incarnait le mal absolu, mais aussi toute la société.
C'est purement gratuit, c'est une mécanique qui tue
parce qu'elle doit tuer, quoi.
Oui, mais la figure actuelle, ce serait celle de la femme qui se venge de son agresseur, pour le coup. On peut pas dire qu'on est loin de l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui.
C'est d'autant plus frappant que la première chose qu'on voit, c'est Miramax au début. Donc tout d'un coup, évidemment, beaucoup de choses avancent. Alors eux diront oui, mais on y avait pensé avant, etc. C'est évidemment la chose intéressante dedans, mais alors, il fallait aller jusqu'au bout de la réflexion.
Oui, je pense que c'est là presque.
Et là, ce n'est qu'un des trucs du film, quoi.
Florence Colombani.
Ça pose la question aussi de comment aborder ces personnages de femmes, soi-disant femmes fortes, parce qu'elles vont être armées, parce qu'elles vont exercer de la violence physique. Mmh. Ça, c'est quand même une tendance assez lourde du cinéma hollywoodien depuis longtemps, depuis avant le début de Me Too.
Même via la série l'a fait avant encore au cinéma.
Mmh. Exactement, de montrer des femmes fortes parce qu'elles sont. C'était même Kill Bill, enfin, parce qu'elles se battent. Et en fait, il y a un moment où il va falloir que les cinéastes interrogent cette représentation du personnage féminin. Parce que c'est trop court, c'est vraiment s'arrêter à quelque chose de trop superficiel.
Antoine Guillaume.
Ben voilà, ça reste défini comme une victime avant tout. C'est-à-dire, elle est comme ça parce qu'elle est victime et elle est quand même montrée comme folle la plupart du temps. Et l'inversion.
Mais c'est la folle qui a raison.
Mais oui, mais les folles ont toujours raison et les fous aussi. Et les paranoïaques ont de vrais ennemis.
Vous le savez bien, Antoine.
Parfois, sauf que l'inversion.
Il parle pour lui-même.
Je parle bien.
C'est pour ça que vous êtes collés tous les deux au bout de la table.
Mais c'est là que ça devient irresponsable de la mettre à la place de Mike Myers, c'est-à-dire de dire que c'est peut-être elle qui est en train de devenir le monstre et si c'était elle qui l'avait créé, etc. Le film n'a aucune réflexion politique, en fait. Donc elle agite beaucoup de pantins sur lesquels on peut essayer de se raccrocher et de se dire, ah oui, peut-être qu'en fait c'est bien, mais comme il y a immédiatement quelque chose qui vient contredire ce qui vient d'être exposé, le film est quand même d'une inanité totale.
Il est beaucoup plus préoccupé à trouver sa propre place à l'intérieur de l'histoire du cinéma. C'est la seule chose qui l'obsède, c'est en rendre compte, éventuellement tuer le père, tout en quand même en se faisant produire par lui. Enfin, c'est
il est pris dans un piège absolument impossible, mais il n'y a que sa place à l'intérieur de cette histoire-là qui l'intéresse, l'extérieur.
Ouais, il a quand même trouvé sa place au box-office, comme le disait Antoine. Moi, je suis nul en chiffres, hein, mais je trouvais ça curieux qu'il a coûté 10 millions de dollars. C'est possible.
Oui, mais ils l'ont tourné en 3 semaines.
Qu'il a déjà rapporté 100 millions.
Mais parce que c'est une production Blumhouse, donc c'est le principe même de cette maison de production. On fait des films pas chers qui peuvent rapporter très très gros.
Ça dit là-dessus. Là-dessus, c'est bien parce qu'ils l'ont, tourné en 3 semaines. Le film est assez beau à l'image. Il est plutôt léché. Enfin,
De la grosse production. Parce
non, précisément.
Dans le paysage actuel, 10 millions de dollars.
La modestie, c'est ribé là-dessus. Je pense que même ça, c'est aussi une posture, enfin, d'une certaine façon. Mais plutôt.
Bon, on ne peut pas tout critiquer.
Ben non.
Mais presque. Concernant.
Allez pas aux toilettes après.
Halloween. Ça dépend dans quel cinéma. Il y a les cinémas qui ont des magnifiques toilettes, j'imagine. Halloween de David Gordon Green est sorti sur nos écrans. On va voir ce que ça donnera pour la France. Et on va voir surtout si la carrière sera longue. Parce que, quand même, est-ce que le bouche à oreille fonctionne? C'est une autre.
Surtout, c'est les yaourts. Hein, Halloween, c'est quand? Jeudi? Mercredi soir,
je crois. Oh,
ben, samedi, c'est fini.
Ouais, ben, allez savoir.
Ma chère mère, cette lettre vous parviendra-t-elle? La choléra s'est abattue sur ce pays. Il n'y a plus ici ni courrier ni voiture de poste. Les routes sont barrées. Peut-être que Dieu a décidé d'en finir une fois pour toutes.
Donc c'est le jeu qui a avancé. Hein. Quel était cet extrait de film habilement glissé par Thomas Beau dans le jingle du coup de cœur? Florence Colombani?
Le hussard sur le toit.
Bravo. C'est le moment de votre coup de cœur. Donc pour cette rétrospective Jean-Paul Rapneau à la Cinémathèque française jusqu'au 3 novembre. Et puis on a fait gagner des places, je crois, cette semaine pour la sortie en version restaurée de Cyrano Bergerac aussi. Je pense que c'était ce mercredi que ce film a retrouvé les grands écrans. Pourquoi un coup de cœur ?
Arnaud, je sais que vous allez me soutenir, car quand nous avons parlé d'Un peuple et son roi, vous avez fait l'éloge des Mariés de Mandeville.
Absolument.
Qui est un film magnifique.
Ça reste le meilleur film français sur la Révolution française, les autres étant maudits.
Exactement. Et un film qui, sous l'apparence de la comédie, très réussi, très drôle, réussit à traiter son sujet de la Révolution, à donner une amplitude romanesque à travers le personnage de Samy Frey et de Laura Antonelli, qui forment un couple inoubliable.
C'est quand même pas rien, non ?
Voilà, déjà
un quel sens de la distribution.
Et aussi des personnages de chouans extrêmement romantiques avec une petite nuance incestueuse qui fait que...
Qui ne gâte rien.
Voilà, qui ne gâte rien, qui fait que les adolescentes frissonnent. Non, il y a quelque chose dans le cinéma de Jean-Paul Rapneau qui malheureusement a disparu du cinéma français. C'est pas la seule raison d'aller revoir ses films, mais c'est quand même une bonne raison. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui est à la fois... qui a le goût du travail bien fait, qui est à la fois le sens de l'image, le sens du scénario extrêmement construit, le sens du récit classique, et en même temps une fantaisie, une poésie et un goût de la légèreté qui sont vraiment irrésistibles. Il a fait peu de films. Son premier film, c'était La vie de château, avec une
merveille, déjà.
Très jeune Catherine Deneuve, comédie sous l'occupation, déjà signe d'audace. Il a fait aussi Le Sauvage, autre comédie à l'américaine où Catherine Deneuve montrait un tempérament formidable.
C'est un des rares films où j'aime Yves Montand, c'est pour dire. Voilà. Le talent de Jean-Paul Rapneau.
Et donc, c'est une carrière en peu de films et en même temps des films qui restent. Des films qui ont une identité très particulière parce qu'ils ne sont pas inscrits dans ce cinéma français un peu sociologique de l'époque. Ils échappent aussi à la case Nouvelle Vague, tout en utilisant très bien les acteurs, hein, puisqu'un très beau rôle de Belmondo, un très beau rôle deux très beaux rôles pour Catherine Deneuve. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Cyrano, alors qui a été pour Rapneau le film de la consécration, et qui incarne, je trouve, cette capacité à insuffler du romanesque, parce qu'il réussit à la fois l'adaptation fidèle de la pièce et le film de KPDP. Il réussit des séquences purement de cinéma. Il y a le très beau siège d'Arras. Et puis, il y a une des plus belles interprétations de Depardieu de la deuxième partie de sa carrière, je dirais. C'était peut-être le début d'une deuxième partie de carrière.
Bah, moi, je pleure à chaque fois que je le vois. Hein.
Bah, oui, parce qu'il y a
la fin est irrésistible.
La fin qui est sublime et la beauté de la voix de Depardieu, la beauté de la diction, une capacité de faire entendre le texte. Donc ce sont de très grands films.
Oui, nous sommes d'accord. Antoine Guillaume, vous avez fait un écran large avec...
Un plan large.
Écran large. Plan large. J'ai changé le titre de votre émission. Le samedi à...
Le samedi à 14h, c'était il y a deux semaines et c'était passionnant parce que il y a aussi un rythme extraordinaire chez Rapneau. Et quand on a passé des extraits pendant l'émission, non seulement Rapneau redisait tous les dialogues du film, mais il se balançait en rythme comme il le fait pendant qu'il tourne. C'est-à-dire qu'il est devant la caméra et il accompagne les comédiens pour trouver le tempo juste avec tout son corps. Et il y a une musicalité chez lui, et y compris dans sa voix, parce que écouter Rapneau parler, c'est l'entendre digresser de manière extraordinaire, chercher ses mots, replonger dans ses films réellement, mais le tout avec une musique. Voilà, il a une voix extrêmement musicale et c'est un grand bonheur de l'écouter. C'est une filmographie qui est étonnante et remarquable parce qu'elle a intégré sans l'afficher par des clins d'œil ou des choses comme ça. Tout ce qu'était le grand cinéma américain, celui qu'il a découvert après-guerre, aussi bien les screwball comédies, aussi bien le cinéma de Lubitsch, de Hawks, et cette rapidité, cette vitesse qu'il demandait, c'est pour ça qu'il a été... La rencontre avec Deneuve a été formidable parce qu'elle, la première fois qu'elle le rencontre, elle lui dit, bon, je vous préviens, je parle un peu vite. Et lui dit, bah, c'est extraordinaire. Et il faisait comme Hawks avec Rosalind Russell. C'est-à-dire qu'il lui disait, au bout d'une prise, on va le faire juste un peu plus vite, celle-là. Et Montand se plaignait beaucoup parce qu'il disait, oh, la petite, quand même, elle court vite. Vous pouvez pas lui demander de courir un peu moins vite.
Et ce qu'il n'a pas fait. Jean-Paul Rapneau, la Cinémathèque française, sa rétrospective jusqu'au 3 novembre. Et comme on fait une page de publicité, demain, c'est quoi le programme de plan large?
Ah bah demain, c'est le week-end Japon, tout ce week-end sur France Culture.
Vous partez au Japon? Donc,
demain, non, je ne pars pas au Japon, je vais venir le Japon.
Vous revenez
à nos
de Chine, on ne peut pas tout faire. Hein.
Et c'est Takeshi Kitano qui sera à l'honneur de plan large demain.
France Culture, la dispute. Arne Laporte. Get the right.
Dernier sujet de cette dispute cinéma ce soir, toujours en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, avec L'Envers d'une Histoire, un documentaire de Mila Turanjic qui filme sa mère, figure de la contestation en Serbie, qui revient sur son parcours 10 ans après la révolution démocratique et la chute de Slobodan Milosevic.
Non. Tu n'as jamais eu envie de tourner cette clé?
Non.
Tu savais ce qu'il y avait de l'autre côté?
Non.
Dans un appartement de Belgrade, une porte est fermée depuis 70 ans. Voici l'histoire qu'elle dévoile.
Nous savions que nous étions une famille suspecte.
Tu les voyais?
On entend le bruit du Judas.
Tu n'imaginais pas que le communisme disparaîtrait?
Non.
Une famille sur le front de l'histoire.
On ne sait pas comment une guerre éclate, surtout une guerre civile, jusqu'à ce que ça démarre. Je pense que nous devrions rester dans ce pays en toutes circonstances. Je rêve que ce pays devienne un pays de paix et de démocratie. Si j'avais été meilleur en histoire, j'aurais su que toutes les révolutions échouent.
Ce n'est pas possible de vivre dans ce pays, maman.
C'est à ta génération de changer les choses, pas à la mienne.
Maman, je ne peux pas.
C'est ton choix. Quelqu'un va devoir le faire.
C'est une super production pour le doublage en français avec Camille André, Sarah Dion et Boris Spino pour les voix françaises. Parce qu'évidemment, c'est un documentaire, il n'y a pas de VF, hein, donc bravo. À vous trois. Allez, entrons dans le vif du sujet avec Antoine Guillot.
Eh bien, je dois vous dire merci, Arnaud, parce que je n'avais pas du tout entendu parler de ce film. Et s'il n'y avait pas eu la dispute, je ne serais pas allé le voir et ça aurait été un grand tort. Parce que j'ai
vu. Mais que ça servait à quelque chose, cette émission.
Ce film m'a passionné et il faut préciser aux auditeurs, je pense qu'il faut qu'ils se dépêchent d'aller le voir parce qu'à Paris, il se joue dans une salle et je ne sais pas combien de copies circulent en province, mais c'est un film qui est très étonnant et passionnant et il faudrait presque ne plus écouter l'émission à partir de maintenant et réécouter en podcast après parce que moi, je l'ai découvert sans rien savoir de ce film. Donc vous dites que c'est quel film sa mère, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'au départ, on voit quel film. Surtout un appartement dans lequel appartement il y a sa mère qui brique de manière obsessionnelle toutes les huisseries en métal et l'argenterie, et le film apparaît assez vite comme le portrait d'un lieu
qui serait une image, une métaphore de la Serbie et de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire un lieu divisé, puisqu'on apprend assez vite que derrière une porte, c'est dès le départ, je crois qu'on l'entend ici, hein, tu n'as jamais eu envie d'ouvrir la porte, bah, pour cause, puisque dans ce grand appartement, quand la Yougoslavie titiste est arrivée, on a nationalisé l'appartement, on l'a coupé et une partie a été affectée à une autre famille. Donc, on se dit, ok, métaphore du pays, on va, etc. Et plus le film avance, plus les couches s'accumulent les unes sur les autres et devient ce dialogue tout à fait passionnant entre une fille et sa mère et un film qui, au bout du compte, est un film sur l'héritage, mais sur quel héritage? Et ils sont plusieurs, puisque cette famille vient d'une vieille famille politique de la Yougoslavie, c'est-à-dire qu'il y a l'arrière-grand-père qui était là dès la création en 1918 de l'État, et ils vont intervenir dans cette famille à plusieurs moments clés de l'histoire de ce pays, et celle qui est au centre de ça, c'est effectivement sa mère qui va transmettre en fait tout un combat politique qui est tragique parce que elle va le raconter. Je crois que là encore, je ne dévoile rien puisqu'on doit l'entendre dans la bande-annonce en version française. C'est que toutes les révolutions, au bout d'un moment, échouent. C'est formidable de faire la révolution, mais on se pose jamais la question de ce qui vient après, et tout est à refaire en permanence. Et là où le film devient très très troublant, parce que évidemment on apprend énormément de choses sur l'histoire de la Serbie, sur l'opposition notamment qu'il y a eu au régime de Slobodan Milosevic. On n'avait aucune idée ici. Nous, on voyait les Serbes comme d'affreux nationalistes qui étaient responsables de toutes les horreurs dans les Balkans.
Parlez pour vous, Antoine.
Non, mais c'est l'image qu'on donnait dans les médias. C'était le Serbe, c'était le monstre, c'était l'ennemi. Les gens qui soutenaient les Serbes étaient d'affreux fascistes, etc. Et à l'intérieur, il y avait un combat démocratique qui se faisait, sauf qu'il n'était pas filmé. Donc une des force de ce film, c'est d'être allé chercher des archives ici et là qui nous donnent à voir ce combat. Mais après, là où le film devient poignant, c'est que l'héritage, c'est lourd aussi. Et ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une mère qui a pris une telle place sur l'échiquier politique, mais aussi dans sa vie? Et le passage de flambeau, et c'est là que moi, le film m'a complètement retourné. Les questions qu'une fille peut poser à sa mère, et sa mère qui est rompue à l'exercice de la prise de parole en public et à la télévision, elle a l'habitude d'être filmée en train de parler, quand tout d'un coup se vrille quelque chose dans le regard parce que sa fille lui pose des questions intimes, qu'elle dit, comment je vais lui répondre là? Je vais faire ma politique ou je vais lui dire très réellement les raisons pour lesquelles j'ai fait tous ces combats? Le film, là, vous dévaste.
Dévastée, Florence Colombani, par ce film L'envers d'une histoire.
Oui, moi j'ai trouvé le film passionnant et extrêmement riche. Et en effet, dans ces archives, ce que disait Antoine Guillot, qu'on découvre, parce qu'on n'en a pas du tout la mémoire, il y a une scène saisissante où on voit exactement le même nombre, en tout cas à l'œil ça paraît être le même nombre, de manifestants d'un côté anti-Milosevic et de l'autre des partisans de Milosevic. Et elle dit, la mère, qui est le sujet principal du film, on était au bord de la guerre civile. En fait, ils étaient dans la guerre civile. Enfin, c'est très...
On ne sait pas quand une guerre civile démarre, elle dit.
Ouais. Et c'est vrai que cette image et la vision de cette femme aujourd'hui, qui ne quitte quasiment pas son appartement, qui est remplie de ses souvenirs de tellement de générations précédentes, de gens qui ont vécu dans leur chair ce que c'était d'être les citoyens de la Serbie, enfin de la Yougoslavie puis de la Serbie, c'est quelque chose de très saisissant, qui est d'autant plus saisissant que c'est une femme assez massive physiquement et avec une sorte de visage impénétrable qui laisse passer très peu d'émotions.
Qui fume cigarette sur cigarette.
Voilà, qui a une voix rauque à cause de la cigarette.
Elle n'arrête pas.
Et en même temps, qui est d'une éloquence incroyable et qui domine sa fille à l'évidence. Voilà, par tout ça, enfin par toute cette épaisseur. Et en même temps, la fille réussit à la faire vaciller. C'est vrai que dans la dynamique entre elles, il y a des moments qui sont vraiment des grands moments de cinéma.
Philippe Azoury, sur ce film L'envers d'une histoire.
Oui, ben, comme Antoine, comme Florence, comme vous, j'imagine Arnaud, je suis très très friand, enfin voilà, de d'images historiques, d'archives qu'on n'aurait pas vues ou qu'on a mal vues ou qui nous sont mal arrivées, qui ont été mal destinées. Effectivement, quand il commence à parler de la révolution du 5 octobre, je rentrais chez moi et vite regarder sur Wikipédia de quelle année. Ouais, l'année, c'est 2000.
De quoi elle parle ? Ben oui.
C'est 2000. C'est-à-dire, s'il y a 18 ans, moi, j'étais en Serbie en 2008 ou en 2009. Je sais même plus si je savais qu'il y avait eu, à quel moment précis, et c'est 8 ans, 9 ans avant, ça a eu lieu, effectivement, ce qui est une guerre civile. Cette révolution, on l'a aussi appelée révolution des bulldozers, révolution démocratique, révolution en trompe-l'œil. ce qui est toute la, enfin, ce qui est vraiment, c'est tout le sel du film. Le 5 octobre, c'est une chose, le 6. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait le 6? Et là-dessus, la mère de la réalisatrice, je vais essayer de prononcer son nom, Srijanka Turajilik, ça c'est la mère,
bravo,
la fille c'est Mila. Donc, Srijanka Turajilik le dit assez bien, très très vite, elle en a assez d'évoquer le passé, d'évoquer le 5 octobre, ou le 4 octobre, pour le dire globalement, parce que c'est, enfin, remonter toute l'histoire de la Serbie, qui est passionnante à travers cet appartement. Et elle demande qu'est-ce qu'on fait le 6, voilà, qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait d'une révolution, puisqu'eux n'ont pas réussi, ils étaient trop amateurs là-dessus. Et elle le demande à sa fille, à Mila. Je suis pas certain que justement, en termes de mise en scène, c'est le seul bémol. Le film est fantastique et c'est pareil. Enfin, c'est un plaisir absolu d'avoir découvert ça pour la dispute. Mais je suis pas certain que Mila, et elle-même l'avoue, ait encore les armes pour cela. Elle dit qu'elle serait incapable de faire un discours, mais elle-même, elle a du mal, parce que pour l'instant, elle a besoin de visiter l'appartement. Elle a besoin de faire tomber tous les murs. Elle a besoin de faire des plans très très larges. Antoine. Elle a besoin de faire des plans larges. Elle a besoin de faire des travelling. Elle a besoin de reprendre l'histoire de l'arrière-grand-père jusqu'à aujourd'hui. Et quand elle a fait ça, c'est évidemment, c'est l'archive qui l'intéresse le plus. Arriver à inventer un futur à partir de là, c'est encore très tôt pour elle. C'est pas un bémol sur la mise en scène. Je trouve qu'il y a un peu de gras, un peu. Enfin, j'en ai marre de venir. Chaque fois que je viens à la dispute, c'est pour dire il y a trop de musique,
ah bah
il
oui, déplace mal. Possible,
j'ai l'impression que je fais toujours
entre
le
violoncelle
même...
et le piano lancinant. Voilà. C'est vrai que ça va pas.
Il y a un peu de gras à droite à gauche, mais c'est pas important. Mais le.
C'est pas
mais...
un grand film de cinéma, on peut le dire. On peut dire que c'est un film passionnant. Et oui, c'est voilà. Pas un geste cinématographique.
Les plans depuis la fenêtre, elle en a fait pendant 10 ans. On peut dire qu'elle aurait pu les éliminer tous parce qu'ils ne servent à rien. Non, ce qui est glaçant et passionnant, c'est qu'effectivement, elle est née en quoi, 78, 79.
Ouais. Quand elle fait sa biographie, elle dit quand j'avais un an, Tito est mort, etc. Et c'est catastrophe sur catastrophe jusqu'à son âge d'aujourd'hui où elle fait ce film 30
voilà, années. Qu'est-ce que fait cette génération qui est un peu au pro aussi la mienne à d'autres endroits du monde. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Est-ce qu'on a le courage quand on voit cette mère? Voilà, la puissance qu'elle dégage, ce que son corps dégage, son visage dégage. Il y a une interview télévisée où elle est quasiment allongée, qui est extraordinaire. Voilà, comment être l'héritier de ça?
Alors, et en plus, dans cet héritage, autre couche, vous l'avez évoqué, l'arrière-grand-père. Alors, l'arrière-grand-père, oui, il est ministre. Alors, du coup, quand tu es ministre à cette époque-là, en Serbie, tu as un terrain en centre-ville, tu construis un immeuble et tu mets toute ta famille dedans. Donc c'est quand même, on se dit qu'il y a des origines douteuses, et elle interroge aussi sa mère sur cette... qu'elle est en fait complètement restée bourgeoise et qu'avec tout ce discours révolutionnaire, elle reste une grande bourgeoise qui veut faire hériter ses filles.
C'est assez cruel. Donc le tout début est très sur la maison et sur la propriété.
Mais ce qu'il y a de bien justement, c'est que cette mère, qui est une figure héroïque pour nombre de Serbes, c'est quand même quelqu'un de pas du tout aimable. Et ça, je pense que c'est une force involontaire du film, mais ça fait, je trouve que c'est une des forces du film, de se dire, cette femme-là, vraiment, on n'a pas du tout envie de la connaître, on n'aimerait pas être sa fille.
Je la trouve pas aimable, et du coup, séduisante.
Oui, non, mais c'est exactement ce que je viens de dire, vous le dites beaucoup mieux que moi, Philippe Azoury. Un dernier mot, Antoine Guillaume.
Oui, mais c'est ça justement qui est passionnant, c'est qu'elle interroge ce qu'est aussi la conscience de classe. Et c'est là que...
Parce qu'elle est forte, hein.
Cette idée de la porte fermée et cette incompréhension qu'a la mère de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un qui était un ancien ministre de Milosevic et pour faire revenir sans arrêt? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être raccord avec le pays? Parce que c'est vraiment ça la question. Et sans arrêt, la volonté de ne pas ouvrir la porte pour voir qui est derrière et qui est une vieille, une nonagénaire prolétaire qui est toujours restée là. Dont elle ira. Mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas allée habiter dans un HLM. Montre quand même, et le moment où nous on la voit est tout à fait bouleversant, montre quand même, effectivement, que
c'est une conscience de classe.
Ces combats démocratiques, c'est pas gagné simplement parce que les élites, parfois, ne comprennent rien à leur pays.
Ouais, c'est le cas. Tout petit mot encore, Florence Colombani,
oui,
pour finir.
Ça pose aussi la question souterraine de ce qu'on sacrifie de sa vie privée pour une cause plus large. Et cette femme, qui était donc professeure d'université et qui a voulu appuyer le combat de ses étudiants contre Milosevic, est clairement passée complètement à côté de l'enfance de sa fille. Ça, c'est un reproche qui court pendant tout le film sur le fait que la mère était constamment à des manifestations, toujours dehors, à les mettre en danger, à ne pas les protéger des bombardements en leur faisant quitter le pays, ce qui aurait été une option pour cette famille qui avait de l'argent. Donc il y a tout un une thématique là aussi qui est assez forte.
Bon, beaucoup de niveaux de lecture et d'intérêt pour l'envers d'une histoire. Allez voir ce film dès que vous pouvez, s'il passe près de chez vous, un film Vous voulez prononcer son nom de Mila
Tourangelique.
Tourangelique. Merci Philippe.
Merci Arnaud.
Et avant de conclure l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. La voix française de Mila nous a rejoint. C'est Sarah Dion qui va nous rappeler la question du jeu d'hier au soir, d'abord.
Qui est le comédien interrompu dès sa première tirade par Cyrano de Bergerac dans le texte d'Edmond Rostand ?
Et la réponse ?
Montfleury.
À gagner ce soir, des invitations pour l'exposition Les Contes Cruels de Paul Arago, dont nous avons dit grand bien mercredi soir. Enfin, ils ont dit grand bien, les critiques présents, moins moi, mais c'est comme ça. C'est jusqu'au 19 janvier au musée de l'Orangerie à Paris. Quelle est la question, Sarah ?
À quel mouvement d'artistes figuratifs comme Francis Bacon, Paola Rego appartenait-elle ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, tout cela envoyé à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et aussi vous abonner au podcast. On se retrouve lundi soir à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Caroline Châtelet, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier à notre affiche Le Banquet de Mathilde Lamé, en ce moment à l'affiche du Théâtre du Rond-Point. Fric Frac d'Edouard Bourdet, mise en scène Michel Faux au Théâtre de Paris, H2 Hébron de Winter Family en tournée dans toute la France, et puis le coup de cœur de Philippe Chevillier pour Laïka d'Ascano Celestini, c'est au Théâtre du Rond-Point.